France Inter.
Bonjour et merci de nous rejoindre sur France Inter pour le débat de midi. En à peine trois générations, le plastique est passé du statut de miracle industriel à celui de fléau planétaire. En 1950, l'humanité en produisait 2 millions de tonnes. En 2022, 475 millions. Et si la trajectoire actuelle perdure, nous dépasserons le milliard de tonnes par an d'ici 2060. Peu de secteurs d'activité peuvent se targuer d'avoir connu pareille croissance. Le plastique s'est glissé dans toutes les strates de notre quotidien. Médecine, transport, construction, alimentation, une présence qui ne serait pas inquiétante si ce matériau ne se délitait pas en micro et nanoparticules désormais détectées jusque dans nos organismes. Nous ingérons, selon une étude, chaque semaine l'équivalent d'une carte bancaire avec des conséquences sanitaires encore incertaines mais potentiellement lourdes. La plupart des plastiques sont enfouis, incinérés ou dispersés dans l'environnement. Il existe toutefois le recyclage, mais moins de 10% des plastiques connaissent cette seconde vie. De plus, le recyclage ne s'attaque pas à la racine du problème, la surproduction. La pollution plastique commence en effet bien avant le déchet. Elle naît à l'usine lors de l'extraction et de la transformation d'énergie fossile. Selon l'ONU, d'ici 2050, cette seule étape pourrait représenter 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors faut-il plafonner la production mondiale et réserver le plastique aux usages essentiels, mettre les producteurs face à leurs responsabilités ou repenser nos modes de vie pour en réduire la demande? En attendant de voir si les difficiles négociations en cours à Genève sous l'égide de l'ONU aboutiront à un traité international efficace. On en débat jusqu'à 12h45 et nous attendons vos questions, vos témoignages sur l'application Radio France et vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
Et nous en débattons aujourd'hui avec en studio à mes côtés Capucine Dupuis. Bonjour et soyez la bienvenue.
Merci, bonjour.
Vous êtes l'autrice de cet essai à paraître le 22 août prochain aux éditions Rue de l'Échiquier. L'essai « Plastique, on arrête tout et on réfléchit ». Bonjour à vous, Josée Taïefé.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes essayiste, conférencier et secrétaire général de The European Plastic Alliance, Plast Alliance. Vous êtes également l'auteur du livre « Plastic Bashing l'Intox » aux éditions Le Cherche Midi. Et puis par téléphone en direct de Genève, bonjour Henri Bourgeois-Costa.
Bonjour.
Soyez le bienvenu également. Vous êtes expert dans le domaine de l'économie circulaire et de la production plastique pour la Fondation Tara Océan. On va commencer avec une question simple, je ne sais pas si elle l'est, vous allez tout de suite me le dire et je vais commencer avec vous, Capucine Dupuis. Pourquoi avons-nous tant besoin du plastique?
Le plastique détient de multiples propriétés qui sont liées aux innombrables additifs qui lui apportent plein de propriétés différentes.
Lesquelles, par exemple?
Qui correspondent. Eh bien, par exemple, il est léger, il est souple ou rigide, il est coloré ou transparent, il peut être pailleté, il peut résister aux flammes, à l'oxygène.
Il est peu cher.
Il est pas cher, ça mérite deux, trois phrases de développement. Il est pas cher au prix de vente. Quand vous regardez, en revanche, les coûts environnementaux et les coûts de santé humaine...
Ça dépend de quel coût on parle, effectivement.
On parle de quelques centaines de milliards de dollars.
Josée Taïefé.
Bah écoutez, effectivement, je suis sur ce point, je suis d'accord une fois n'est pas coutume avec Madame Dupuis. Le plastique, en fait, concentre en fait toutes les qualités, on va dire, et tout ce qu'on peut attendre de l'ensemble des autres matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, les autres matériaux peuvent avoir, on va dire, des capacités sur certaines applications. Le plastique, en fait, il peut tout faire. Et quand vous dites effectivement qu'il est pas cher, pourquoi il est pas cher? C'est parce qu'en fait, ça nécessite très peu d'énergie pour le fabriquer. Parce qu'on dit toujours, c'est extrait, ça vient du pétrole, donc c'est les énergies fossiles. Mais il ne faut jamais oublier que le verre, par exemple, c'est 400 degrés pour le fabriquer, ça c'est du gaz. Le gaz, c'est fossile. Or, on ne reproche jamais d'ailleurs l'origine fossile du verre. Et aujourd'hui, en fait, pour les industriels, produire des produits plastiques, c'est quelque chose qui permet effectivement de produire quelque chose en masse, parce qu'effectivement, vous pouvez le produire en énorme quantité. Et nous sommes aujourd'hui avec une population mondiale qui n'est plus, on va dire, de 1 ou 2 milliards d'habitants, on est à 6 milliards. Et effectivement, la population va grandir. Et c'est donc pour cela, d'ailleurs, que vous avez effectivement, et je suis d'accord avec sur ce point, sur les chiffres de croissance en termes de production de 2 à 3 fois dans les 20 prochaines années. Précision faite que cette croissance sera quand même concentrée dans les pays africains et asiatiques.
Et ça, on en reparlera évidemment, effectivement. Je veux vous entendre aussi sur cette question, Henri Bourgeois-Costa. Pourquoi avons-nous tant besoin du plastique ?
Eh bien, en fait, je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous étonner. C'est que c'est pas tant nous qui avons besoin du plastique que le plastique qui a besoin de nous. Et pour vous répondre ça, en fait, je m'appuie sur une étude qui a été publiée très récemment par le CNRS et l'INRAE. C'est une étude qui rassemble des sciences humaines et sociales, des sciences dures, et qui fait la démonstration que finalement, il y a eu une construction par le secteur de la pétrochimie d'un besoin du plastique. Et qu'en fait, c'est pas une nécessité que nous avons, nous, individuellement, intrinsèquement, chevillés au corps du plastique, mais qu'on nous a inondé d'une proposition de produits plastiques dont aujourd'hui, on a du mal à se passer parce qu'ils sont devenus structurants dans nos quotidiens et dans nos économies. Mais c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le passer, ce qui pose le problème complètement différemment.
Nous sommes victimes du secteur pétrochimique ?
Très clairement, l'étude est vraiment sans aucun embâge là-dessus, il n'y a aucune discussion, il y a une vraie construction du besoin de plastique qui s'est faite au fur et à mesure des dernières décennies.
De quelle façon ?
Mais tout simplement en inondant le marché de propositions de produits, en structurant toute une série d'offres et en s'imposant finalement sur nos quotidiens.
Est-il possible de vivre sans plastique, de faire l'impasse sur le plastique, Capucine Dupuis ?
Aujourd'hui, de vivre sans aucun plastique, c'est selon moi pas possible, que vous habitiez dans un pays riche ou pauvre, que vous soyez esquimau en Arctique ou boulanger dans le Larzac, tout simplement parce que même si je vais vivre nu dans les bois, vu qu'il y a des micros et des nanoplastiques dans les feuilles, de toute façon je serai au contact. La question, elle est plutôt de réorienter la question de l'usage, qui rejoint le point d'Henri, à savoir à chaque fois que j'utilise un item en plastique, est-ce que c'est un usage essentiel ?
Est-ce que c'est l'offre qui a créé la demande, Joseph Taïefé ?
Alors, quand on regarde l'histoire du plastique, ça ne correspond pas exactement à ça. Hein. Les premiers plastiques, par exemple, pour faire les fameuses boules de billard, c'est parce que justement, vous aviez un problème concernant l'ivoire des éléphants qui était en manque. Et donc, on a fait effectivement du plastique pour faire des boules de billard. À une époque, on faisait les lunettes avec les écailles de tortue. Et donc, heureusement, aujourd'hui, quand même que...
Donc, le plastique a contribué à protéger les animaux, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne conteste pas le fait que des sacs plastiques ont certaines dû tuer des animaux marins dans la mer. Bien sûr, on a vu les images chocs, et je suis certain aussi que s'ils se prenaient aussi un coton-tige en bois très pointu, ça leur ferait mal aussi. Mais il faut aussi rappeler une chose, c'est que le plastique a aussi sauvé la peau des animaux. Aujourd'hui, quand vous avez du cuir vegan dans les voitures, je ne citerai pas de marque, mais en tous les cas, quelle que soit la voiture ou même à domicile dans vos canapés, c'est du plastique. Or, si on ne met pas du cuir vegan et qu'on veut mettre quelque chose qui soit du vrai cuir, ben, à ce moment-là, ce sont les animaux. Et donc, effectivement, il y a eu effectivement cette approche-là. Mais c'est surtout le fait que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, en termes de population, nous avons, on va dire, des besoins extrêmement importants. On peut parler de la bouteille en plastique. Est-ce que c'est un produit indispensable ou pas ? Moi, j'ai vu un reportage sur France 24 il y a 2 jours, dans lequel il y avait des incendies, dans lequel toutes les canalisations et les services d'eau potable étaient hors service. Et donc, la mairie et également l'État a donc mis à disposition des bouteilles d'eau en plastique pour le faire. On ne pourra pas mettre des bouteilles en verre et leur approvisionner. C'est ce qui s'est passé aussi à Mayotte. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Les parachutes que la France a envoyés avec les vivres sont en plastique. Et vous avez les vivres qui sont à l'intérieur, qui sont soit emballés dans du plastique, ou soit même quand ils sont en métal, vous avez dans les boîtes de conserve également une couche de plastique, parce que vous ne pouvez pas avoir un contact direct alimentaire entre un aliment un peu acide et le métal. Donc aujourd'hui, la question effectivement du plastique, non, on ne pourra pas vivre sans, ça c'est sûr et certain. Par contre, il est évident, et l'Europe, on va dire, a montré l'exemple, qu'il y a des usages à mon sens, qui posent, on va dire, problèmes ou qui sont un peu inutiles, les pailles, les touillettes, les choses comme ça, des produits d'ailleurs souvent fabriqués en Chine. Et donc, en l'occurrence, l'Europe est déjà à l'avant-garde. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce que l'Europe a fait, le monde entier va également le faire et le suivre ?
Le plastique, pardon, comme sauveur, c'est quelque chose que vous pouvez entendre, Henri Bourgeois-Costa ?
Non, c'est évidemment un sophisme. C'est pas recevable. Évidemment, ça n'a jamais été le moteur de la production du plastique. Mais au-delà de ça, ça veut dire mettre de côté les chiffres. Et les chiffres sont assez têtus. Hein. Finalement, on parle de 200 000 mammifères marins qui décèdent chaque année d'enchevêtrement et d'ingestion de plastique. On parle de plusieurs millions d'oiseaux qui en sont également victimes. Et puis là, on ne parle que la très grande faune. On ne parle pas de à quel point finalement cette production, cette émission de déchets sous forme de nano, de microplastiques, de macroplastiques, mais également cette émission de toxiques, également cette contribution au réchauffement global de la planète, contribue à la dégradation de la biosphère et donc de l'ensemble de la biodiversité. Donc parler de quelques éléphants qui auraient été sauvés C'est déjà oublié qu'il y avait quand même un argument commercial qui était très très fort, hein. C'est que le premier moteur, c'est qu'il y avait un enchérissement absolument phénoménal de la matière de l'ivoire, et ça a été quand même ça le principal moteur du changement. Mais surtout, il y a une disproportion dans les propos de Monsieur Taïfé qui est vraiment presque caricatural entre l'apport finalement du plastique à sauver la biodiversité et la réalité scientifique aujourd'hui qu'on constate en permanence de l'impact des plastiques sur le vivant.
Une réaction, Joseph Taïfé ?
Moi, je dis que charité bien ordonnée commence par soi-même. Monsieur Bourgeois-Costa est dans une association qui s'appelle Tara Océan. Tara Océan a été fondée par Madame Agnès Bourgeois, qui est également propriétaire de la marque de vêtements Agnès B. Moi, j'ai regardé le catalogue de ce groupe et je vois des chemises en polyester 100%, avec des polyesters qui ont été tissés et teints en Corée du Sud. Je vois des vêtements en triacétate, je vois du nylon. Donc moi, j'invite, si vraiment, effectivement, parce que j'ai beaucoup entendu M. Henri Bourgeois-Costa, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre, parler de la réduction des polymères plastiques primaires et de dire que les textiles sont une source de pollution aussi et de microplastiques, eh ben, je l'invite effectivement à demander au groupe Agnès B d'arrêter, en fin de compte, la production de textiles synthétiques. Donc après, on pourra effectivement discuter. Il faut déjà montrer l'exemple par soi-même.
Je vous donne quand même la réponse, M. Henri Bourgeois-Costa.
Oui, c'est toujours, on est toujours un peu dans le même argumentaire qui a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il élève pas le débat. La question c'est pas est-ce que nous individuellement ou est-ce qu'une entreprise qui soutient la fondation et qui n'est pas la fondation, hein, je le rappelle, mais qui soutient la fondation très fortement, qui en est à l'origine, je le concède bien bien volontiers et on en est très très fiers et très heureux. En quoi cette responsabilité individuelle serait à elle seule l'alpha et l'oméga de la problématique? En réalité, c'est une façon de dépolitiser le débat. C'est un sujet qui est un sujet de société, qui est un sujet majeur. Et en fait, c'est pas une somme d'actes individuels, cette stratégie qui consiste à dire commencez par vous-même, soyez vous-même dans la réduction, c'est une injonction qui nous met finalement dans une réalité très paradoxale, c'est qu'on vit dans un système, on vit dans une société et on fait avec les réalités.
On fait porter le chapeau aux consommateurs.
On fait porter le chapeau aux consommateurs, on fait porter le chapeau à certaines entreprises, on essaye de ne pas considérer qu'il s'agit là d'un vrai choix politique, d'un vrai choix de société. L'idée, c'est pas de pointer du doigt tel ou tel, mais de dire qu'il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Aujourd'hui que le constat scientifique est complètement assis, qu'il n'y a plus de discussion sur les impacts sanitaires globaux, qu'il n'y a plus de discussion sur les impacts climatiques, il n'y a plus de discussion sur les émissions de toxiques et les émissions de déchets. En tout cas, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de discussion là-dessus. Certains en discutent, certes, mais en tout cas pas dans la communauté scientifique indépendante. Une fois qu'on a fait ce constat-là, ben comment est-ce que collectivement, et c'est l'idée d'un traité international, c'est l'idée des lois européennes, c'est l'idée de tout ce travail-là qu'on fait, comment est-ce que collectivement on sort du plastique le plus possible? C'est évidemment que on va pas s'en passer complètement, c'est pas le propos. Mais la question, c'est quels sont ces usages essentiels? C'est un vrai sujet, de société, bien plus important finalement que de la responsabilité d'un tel ou sa nécessité d'être absolument exemplaire dans un monde qui évidemment ne le permet pas.
Capucine Dupuis, est-ce une responsabilité individuelle ou collective, selon vous?
Ce sont les deux, et dans les deux cas, j'en reviens toujours à cette question de se demander si on en a besoin. Si je reprends les exemples qui sont très ponctuels que vous avez cités, la question n'est pas de se demander est-ce que j'ai besoin d'une paille en plastique ou en bambou, mais est-ce que j'ai besoin d'une paille. Donc, sauf dans quelques rares cas d'hospitalisation, la réponse est plutôt non. Pareil pour les industriels qui se targuent de développer des voiles en synthétique qui vont tracter des cargos commerciaux et économiser ainsi entre 10, 20 ou 30% de kérosène, ce qui est très bien en soi. Mais moi, j'ai envie de dézoomer un peu et de regarder ce cargo. En fait, s'il vient de Chine et qu'il est rempli d'articles de fast fashion ou de ultra fast fashion qui sont 100% en synthétique, qui se dirigent vers l'Europe pour nous inonder de ça et qui vont repartir chargés des déchets plastiques que nous sommes incapables de traiter car le recyclage du plastique ne marche dans 90% des cas pas. Cette innovation de voile synthétique pour tracter les cargos se questionne véritablement.
On doit-on ou même peut-on se passer du plastique? On continue d'en discuter avec nos invités ce midi. Laissez-nous vos messages au 01 45 24 7000 ou sur le WhatsApp de l'émission. On se retrouve juste après la Nuba Galactica de Yeli Yeli sur France Inter.
temps efface tout. Comme l'air après l'orage. Tu oublieras ces mots. Ma voix bientôt divague.
Galactica de Yeli Yeli à 12h20 sur France Inter.
France Inter. Le débat de midi.
Et vous pouvez rejoindre le débat, je le rappelle, en envoyant vos messages sur l'application Radio France ou des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission en 01 45 24 7000 pour rejoindre aussi, eh bien, peut-être les propos de nos invités. Capucine Dupuis, autrice de l'essai Plastique, on arrête tout et on réfléchit, qui sortira le 22 août. Joseph Taïefé, essayiste, conférencier et secrétaire général de The European Plastics Alliance, Plast Alliance, auteur du livre Plastic Bashing, l'intox, et puis par téléphone, Henri Bourgeois-Costa, expert dans le domaine de l'économie circulaire et de la production plastique pour la Fondation Tara Océan. Il y a un sujet dont on parle beaucoup actuellement, c'est microplastique, nanoplastique, effet sur la santé. Il y a énormément d'études. Un collectif d'une trentaine de scientifiques a d'ailleurs fait paraître dans un journal une note faisant état de leurs recherches, ou du moins ce qu'on pouvait plus ou moins envisager, parce qu'il n'y a pas encore d'études réelles sur l'impact du fait qu'on ingère du plastique. Je notais l'équivalent, et c'est ce que je disais dans mon introduction, d'une carte de crédit par semaine. Vous pouvez nous en dire un mot. Je pense que dans votre essai, vous intéressez beaucoup justement à la toxicité. Capucine Dupuis.
Oui, c'est une grosse partie de mes recherches. Le plastique n'est pas cette matière neutre, inerte et inaltérable que les fabricants nous proposent et nous assurent. C'est une matière qui est infatigable, qui va durer des centaines d'années, mais qui n'est pas inaltérable, c'est-à-dire qu'elle s'use. Elle s'use notamment avec des facteurs qui l'accélèrent, comme les UV du soleil, les bactéries, les courants, les frottements, etc. Donc c'est comme si vous avez un collier de perles, et puis vous secouez le collier et les perles petit à petit vont se séparer. C'est pas forcément visible, et pourtant les micro et les nanoplastiques sont absolument partout dans notre environnement, donc dans nos organismes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pour resituer un peu le tableau, un plastique, c'est quoi ? C'est un polymère, c'est-à-dire une structure, un squelette auquel vous greffez des additifs. Il y a 5300 structures de polymères qui existent actuellement, et ça augmente de jour en jour, et il y a plus de 16 000 additifs et charges. Les additifs, c'est par exemple des phtalates qui assouplissent un jouet en PVC. Ce sont des paraffines chlorées qui vont imperméabiliser un rideau de douche. C'est des retardateurs de flamme qui vont réduire l'inflammabilité de votre coque de télévision, d'ordinateur, ou même le revêtement textile de votre canapé. Et c'est le bisphénol A que l'on trouve à l'intérieur des canettes dont on parlait tout à l'heure. Vous avez donc plus de 16 000 additifs et charges qui ont plein de fonctions très intéressantes pour les industriels. Sur ces 16 000, vous en avez pour 10 000 d'entre elles, c'est-à-dire 60%, une absence d'information sur l'identité, les fonctions ou l'application. Donc, c'est compliqué pour évaluer l'impact sur la santé humaine dont vous parlez. Deuxièmement, il y en a 4 200 d'entre elles, c'est-à-dire un quart, qui sont classées dangereuses pour la santé ou toxiques pour l'environnement ou les deux, parmi lesquelles il y en a de nombreuses qui sont cancérogènes. Je précise que ces chiffres, ce n'est pas moi qui, avec mon petit doigt mouillé dans le vent, les ai sortis, c'est tout bonnement les scientifiques qui les ont classés.
Voilà, c'était aussi ce rapport dont je parlais a été publié dans la revue de Lancet, c'était le 4 août dernier.
Voilà. Et puis, vous avez, la liste n'est pas finie, vous avez ce qu'on appelle les NIAS, c'est-à-dire des sous-produits qui apparaissent de façon non intentionnelle, c'est-à-dire les fabricants ne veulent pas les fabriquer, mais n'empêche qu'elles apparaissent parce que elles sont le produit de transformation chimique, elles sont des impuretés, c'est tout ce qui est généré de façon involontaire. Donc, vous avez cette espèce de masse, de combinaisons possibles chimiques qui font que c'est très compliqué d'aller observer l'effet de chacune d'entre elles. Il n'empêche que la preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve et que vous avez tous les faisceaux qui convergent vers une toxicité avérée de nombreuses molécules qui sont utilisées dans le plastique et notamment tout ce qui est perturbateur endocrinien.
Une réaction, Joseph Taïfé.
Bien sûr. Vous avez parlé des fameux 5 grammes de plastique qu'on avale par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire. Monsieur Bourgeois-Costa disait que la science a déjà établi tous les faits, toute la réalité. Non, ce que vous avez cité provient d'une étude de WWF de 2019 qui a été complètement débunkée. C'est une fake news. Mais vraiment, je le dis, je l'ai dit encore tout récemment sur Arte également concernant ce sujet, c'est une fake news. Le chercheur a commis de graves erreurs dans son étude. Vous avez des études indépendantes qui ont démontré que cette étude qui a été financée par WWF, hein, donc c'est quand même important de le dire, a été complètement biaisée. Vous avez parlé, j'ai entendu, le Lancet. Quand vous avez une étude qui est financée par l'industrie, si moi je vous propose une étude qui dit que le plastique ne propose pas de danger, que c'est l'industrie qui l'a financé, tout le monde va me dire, mais monsieur, votre étude est biaisée, enfin, il y a un conflit d'intérêts, qui va vous croire? Eh ben, je dis la même chose pour les études qui sont financées par les ONG. Et en l'occurrence, je vous invite à tous les auditeurs à regarder la fameuse étude du Lancet et à taper dans le moteur de recherche quand vous êtes sur le document, de taper Minderoo, M-I-N-D-E-R-2-O. C'est une ONG, une fondation fondée par un milliardaire australien qui a des fonds d'investissement dans différents secteurs et notamment dans le métal. Et en l'occurrence, quand on lit à la fin de cette étude les conflits d'intérêts, on se rend compte que vous avez des chercheurs qui sont des salariés de Minderoo et d'autres qui ont été payés et dont les frais ont été pris en charge par
Minderoo. Mais alors, je vais vous donner la parole hein, et vous laisser vous exprimer. Le plastique n'a aucun effet sur notre santé, on peut dire
alors,
ça alors?
Alors, vous avez parlé effectivement donc des microplastiques. Moi, je suis pas un microplastique sceptique dans le sens où je dis qu'il n'y a pas de microplastique, voire même de nanoplastique dans l'environnement. Bien entendu, les sources, on a parlé des textiles synthétiques, vous avez les pneus. Donc déjà, si vous voulez supprimer de l'ensemble des microplastiques de l'atmosphère, il faudra arrêter de rouler avec des voitures. Encore moins d'ailleurs avec des voitures électriques, car j'ai eu l'information comme quoi une voiture électrique a ses pneus qui s'usent 30% de plus qu'une voiture thermique due au poids des batteries. Et donc plus la voiture est lourde, plus on remet du plastique dans une voiture. Je rappelle que dans une voiture, vous avez le plastique, c'est 50% d'une voiture, 10% du poids. Vous avez les revêtements routiers, parce qu'aujourd'hui, vous avez de l'incinération qui est faite de certains déchets plastiques, vous avez le mâche-fer qui est utilisé pour faire des revêtements. Donc à un moment donné, avec le roulement, vous émettez des microplastiques. Vous avez les peintures. D'ailleurs, l'ANSES avait sorti une étude tout récemment dans laquelle on avait trouvé des microplastiques dans des bouteilles en verre. Et chose assez étonnante, on en avait trouvé plus dans la bouteille en verre que dans la bouteille en plastique. Et pourtant, on sait que c'est le bouchon, en fait. C'est le petit bouchon métallique avec le vernis qui a contaminé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la bouteille en plastique, 100% plastique, contenait infiniment moins de microplastiques qu'une bouteille en verre avec juste seulement un bouchon vernis. Aujourd'hui, il y a des études qui sont en cours concernant justement les impacts sur la santé. Vous avez une étude de Nature indépendante du 10 mars 2025 qui indique est-ce que les microplastiques sont vraiment dangereux. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de biais Et beaucoup, on va dire, d'erreurs dans les études qui sont faites, c'est-à-dire on trouve des microplastiques, mais en fait, c'est des contaminations qui peuvent venir par le laboratoire. Vous avez des polymères qui parfois sont pris pour des plastiques alors qu'ils ne le sont pas. L'histoire du plastique dans le cerveau, dans l'étude du 10 mars 2025 qui est en ligne, ils indiquent eux-mêmes que c'est pas biologiquement plausible. Vous avez énormément, vous pouvez taper sur Google et taper expert reaction plastic et vous avez des chercheurs qui réagissent et dont personne ne parle malheureusement et c'est pas qui réagissent justement sur les études, pourtant sur le plastique, et qui disent, bah, effectivement, il y a des erreurs, on n'est pas sûr, etc. Effectivement, Madame Dupuis, en tous les cas, elle a raison de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de dangerosité, mais l'absence, effectivement, de preuve de dangerosité ne veut pas dire que quelque chose n'est pas dangereux. En revanche, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les quantités auxquelles on est soumis, parce que d'autres études ont essayé d'évaluer à quoi on était soumis en termes de microplastique, on est sur des quantités infinitésimale. Et aujourd'hui, ben moi, ce que je constate, c'est que l'espérance de vie dans les pays développés et qui ont, on va dire, une industrie du plastique développée a augmenté. Et qu'aujourd'hui, ben, tout le système, par exemple, aujourd'hui de santé, rappelez-vous, pendant le Covid avec les masques, on nous a dit de mettre des masques sur le visage. Si ces masques posaient un problème, ben à ce moment-là...
On n'a pas eu vraiment le choix.
Tout à fait, mais je veux dire, justement, c'est le bénéfice-risque, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les services rendus par le plastique sont supérieurs, on va dire, aux désagréments ?
Et je vous pose la question à vous, Henri Bourgeois-Costa.
Alors, je voudrais déjà répondre à la méthode de discussion qui me pose un petit peu souci, puisqu'en fait, on ne parle pas du fond et on est, monsieur Taïfé, dans une stratégie un peu classique qui est quand on n'est pas capable d'attaquer les arguments, on attaque les argumentateurs. Alors, et on peut aller chercher des exemples assez anecdotiques, celui de la carte de crédit, etc., et mélanger deux choses, qui est d'un côté ce que apporte la publication scientifique indépendante, et puis de l'autre côté des éléments de communication d'ONG avec lesquels on est d'ailleurs pas d'accord du tout là-dessus. Hein. Il y a aucun doute pour nous que cette étude sur la carte de crédit, ben c'est plus un outil de sensibilisation et de communication qu'une étude scientifique sérieuse. On n'a jamais prétendu l'inverse. Et donc mélanger les deux pose un vrai souci, parce qu'en fait c'est cette façon-là qu'on s'attaque au fond finalement et qu'on essaie de contredire. Et c'est malheureusement la façon dont travaillent les pays du Golfe actuellement pendant les négociations du traité international.
Mais alors parlons du fond justement, Henri Bourgeois-Costa.
Alors sur le fond, ben, effectivement, il y a des travaux sur la santé qui sont neufs, qui sont assez récents. Tous les travaux des impacts sur les microplastiques, a fortiori sur les nanoplastiques, sont des choses qui sont très embryonnaire, elle commence et c'est très difficile de tirer des conclusions très fortes sur les conséquences de la santé de ces petits plastiques en tant qu'objet physique. Mais par contre, il n'y a plus aucun doute. Les faits sont largement établis sur la toxicité d'un certain nombre de molécules qui sont utilisées dans l'industrie du plastique. Et de la même façon, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, ce concept de dangerosité sur la santé humaine ne se déconnecte pas d'une réalité, d'une dangerosité sur l'environnement. Il y a un concept que M. Taïfé semble feindre d'ignorer, qui est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de santé humaine d'un côté et de santé environnementale de l'autre, on parle de santé globale. C'est quelque chose qui a été acté par les Nations Unies il y a déjà 5 ans, et qui considère que dès qu'on affecte l'environnement, dès qu'on déverse des déchets, dès qu'on déverse des molécules chimiques, dès qu'on contribue au réchauffement climatique, eh bien en fait, on atteint à la santé humaine. Et ça, c'est pas la Fondation Tara qui le dit toute seule. C'est l'Organisation mondiale de la santé et c'est le haut commissaire aux droits humains qui l'a rappelé au début des négociations, qui avait un enjeu majeur de respect des droits humains fondamentaux et notamment du droit à être en bonne santé, à pouvoir adresser cette problématique qu'est la production mondiale de plastique. C'est pas moi qui le dis, ce sont très clairement deux grandes instances internationales qui sont chargées de veiller à notre santé, à nos droits.
Capucine Dupuis.
Pour compléter le côté embryonnaire des recherches dont parle Henri, elles sont embryonnaires en effet, les preuves commencent néanmoins à s'accumuler, tout comme les micro et les nanoplastiques s'accumulent dans nos organismes. Il y a deux effets sur la santé, il y a les effets mécaniques et les effets chimiques. Les effets mécaniques, c'est que les particules s'accumulent dans les organismes. On en a, et c'est prouvé, et je pense que personne ici ne pourra le nier, dans le système nerveux, dans les vaisseaux sanguins, dans le sang, dans le poumon, dans le foie, dans les reins, dans le cœur, dans le système digestif, dans le placenta, dans le testicule, je pourrais presque faire un rap avec ça. Chaque être humain en 2024 contient du plastique dans tous les organes de son corps. Et ce n'était pas le cas dans les années 2000, et encore moins dans les années 90, et ce sera pire dans les années 2040. C'est le GDR, le groupement de recherche plastique, environnement et santé, qui le dit. Sur les effets chimiques, un contact quotidien avec les substances hormono-actives qui sont contenues dans les plastiques peut donner. Du diabète, de l'obésité, un faible QI, des troubles de l'attention, de l'obésité, une puberté précoce, des cancers du sein, de la prostate pour les hommes, des troubles de la thyroïde, de la stérilité, etc. Pourquoi ? Parce que de nombreux plastifiants utilisés dans les plastiques sont des perturbateurs endocriniens. Un chiffre, parmi les 900 produits chimiques les plus utilisés dans les emballages, je dis bien dans les plus utilisés, c'est pas à la marge. L'ECHA, qui est l'agence européenne des produits chimiques, donc c'est pas la petite ONG de quartier. L'ECHA en pointe 63 qui sont dangereux pour la santé, 68 qui sont toxiques pour l'environnement. Et nos organismes à tous contiennent des phtalates. Les phtalates, c'est des plastifiants qui sont dangereux pour la santé.
Et je vous redonnerai la parole dans un instant, Joseph Taïfé, pour réagir à ces propos de Capucine Dupuis. On revient juste après Saya Gray, 10 Ways to Lose a Crown sur France Inter. Ways to Lose a Crown de Saya Gray à 12h37 sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Je voudrais réagir à ce que vous avez dit au sujet des bouteilles d'eau en plastique. J'ai du mal à comprendre qu'en France, il n'y ait pas un système de consigne de bouteilles en verre qui soit mis en place. C'est le cas en Allemagne, dans les supermarchés, on trouve très peu de bouteilles en plastique et ça fonctionne très bien.
Un vocal laissé par notre auditrice Bénédicte ici. C'est vrai que le plastique est omniprésent, mais est-il remplaçable à performance égale? On pense effectivement à ces alternatives, ou du moins ici à ce recyclage, ces consignes qui fonctionnent, semble-t-il, très bien en Allemagne. Joseph Taïfé.
Tout à fait. Alors, juste par rapport juste par 30 secondes de ce qui était dit avant, le bisphénol A est interdit en France depuis quelques années. Donc, si on trouve du bisphénol A dans des emballages alimentaires ou destinés à l'alimentation ou aux nourrissons, ils n'ont pas été fabriqués en France. Quand vous avez des substances chimiques, et je suis totalement d'accord avec toutes les parties qui peuvent dire qu'il peut y avoir des substances chimiques problématiques et qui peuvent être dangereuses ou que telle organisation a reconnu, je rappelle que les produits fabriqués dans l'Union européenne, en France, mais notamment dans l'Union européenne, sont soumis aux normes les plus strict au niveau mondial concernant les substances. Et souvent dans les études qu'on nous amène en nous disant on a trouvé dans tel produit ou tel jouet ou tel élément du poison, entre guillemets, ce sont des produits qui sont fabriqués en Chine ou ailleurs, mais en tous les cas en dehors de l'Union européenne. Et c'est ça d'ailleurs pour lesquels nous on se bat. Moi j'ai pas d'inquiétude sur est-ce qu'il y aura beaucoup de plastique ou pas dans les prochaines années. Il y en aura. La question c'est où est-ce qu'il sera fabriqué. Et pour rebondir sur la question effectivement de la consigne, il faut quand même dire que l'Allemagne est quand même le numéro 1 au niveau européen du plastique. C'est le numéro 1. C'est-à-dire que nous, on est à peu près à 9% de la production plastique européenne. L'Allemagne, on est à peu près à 16-17%. Et ils ont effectivement un système de consigne pour le verre, mais ils ont aussi un système de consigne pour le recyclage des bouteilles, ce qui leur permet d'ailleurs d'arriver à des taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique de plus de 90%. Et en l'occurrence, en France, nous n'avons pas ce système de consigne pour recyclage. Vous avez actuellement 17 pays européens qui l'ont déjà. Parce que vous avez une opposition, on va dire, et de certaines associations, pas toutes. D'ailleurs, Monsieur Bourgeois-Costa pourra peut-être le dire, mais en tous les cas, à une époque, il était favorable à la consigne, vu qu'on nous-mêmes, moi, mon organisation et Océan sans plastique, qu'il dirigeait, on avait fait un communiqué commun à l'époque pour dire qu'on soutenait la consigne pour recyclage. Mais vous avez aujourd'hui les collectivités, parce qu'en fait, elles ont besoin du plastique. C'est-à-dire que le plastique, c'est de l'argent. C'est-à-dire que le déchet a une valeur. Et en fait, si vous mettez la consigne pour recyclage en place, tout ce qui passe dans la poubelle jaune aujourd'hui, ne sera pas mis dans la poubelle jaune. Donc, je peux comprendre, effectivement, le côté financier pour eux. Et vous avez aussi certains recycleurs et gestionnaires de déchets dont personne ne parle, on va dire. C'est-à-dire, personne ne discute, on va dire, de leur responsabilité aussi à eux. Qui, au final, aujourd'hui, ne recyclent pas grand-chose en France. En tous les cas, c'est pas le cas en Allemagne où c'est 50% de recyclage. Mais ici, on est à 23-25% de tous les emballages. Qui, aujourd'hui, en fait, veulent garder, on va dire, les bouteilles et les flacons dans la poubelle jaune parce qu'ils n'ont pas envie forcément d'aller chercher le reste. Mais la consigne est un excellent outil, notamment pour ce qu'on appelle le hors-foyer. Ça veut dire que quand vous avez un système de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique qui est là, vous pouvez être assuré qu'une bouteille qui tombe dans la rue, il y a des vidéos d'ailleurs sur Facebook ou en Allemagne qui l'ont montré, vous pouvez avoir même n'importe qui, même un SDF va prendre la bouteille pour la ramener pour toucher l'argent. Donc on va dire, vous donnez une valeur aux déchets et ça permet aussi in fine à l'industriel d'avoir quand même de la matière première de très haute qualité.
Je pense que tout le monde s'accorde sur la question du recyclage, de comment le faire prospérer, du moins grandir, qu'il prenne de plus en plus de place malgré les difficultés. Mais ce qui fait le cœur des discussions à Genève en ce moment, c'est la production du plastique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre ? Vous êtes sur place, Henri Bourgeois-Costa.
Mais on en attend beaucoup. On a évoqué toute la complexité de cette problématique. On voit bien qu'en fait, ce n'est pas des pays isolés ou des acteurs isolés qui vont réussir tout seuls à adresser cette problématique. Et il est nécessaire qu'on ait un grand cadre international pour justement réduire cette production. Vous évoquiez le recyclage et il ne s'agit pas d'en nier. Et on a soutenu effectivement, comme disait Monsieur Taïfé, des dispositifs qui permettent d'en améliorer de la collecte et le recyclage par moment. Mais il faut aussi être bien conscient que c'est pas le recyclage à lui seul qui va résoudre le problème. Ça serait une folie absolue. Aujourd'hui, les projections de l'OCDE nous donnent 9% actuellement, 10% maximum de recyclage des plastiques. Et dans le meilleur des cas, on devrait atteindre une quinzaine de pourcents dans quelques décennies. Donc il n'y a pas une marge folle. Et puis c'est ignorer toute la partie problématique toxique, toute la partie climatique que pose le plastique.
Et j'ai ici Henri Bourgeois-Costa, un message de notre auditeur Olivier qui nous dit ceci. A-t-on élaboré des perspectives globales pour enrayer ce mouvement sans fin de surproduction ?
Alors oui, il y a des réflexions ici à Genève, évidemment. Elles sont portées par les grandes démocraties, elles sont portées par les pays du Sud, qu'il faut rappeler sont les premières victimes de cette pollution plastique. Et puis elles sont combattues par des intérêts économiques, mais surtout représentées par les pays pétroliers et puis la Russie, les États-Unis actuellement.
Une réaction, Capucine Dupuis.
Oui, bah, le recyclage, c'est, il peut être amélioré à la marge, mais en aucun cas, il ne peut résoudre le problème. Parce que même si on suppose que le recyclage du plastique fonctionne en boucle infinie, c'est pas vrai et ça le sera jamais, hein, comme disait Henri, mais supposons que ma bouteille en PET renaîtra éternellement en bouteille PET sans ajout de matière vierge, que mon tube de dentifrice avec cette couche de matériaux distincts, il va renaître en tube de dentifrice, etc. Tout ça, c'est issu de la combinaison de milliers et de milliers de structures de polymères et d'additifs, mais bon, supposons. Dans ce cas, moi j'ai des questions, c'est que dire des microbilles qui sont intentionnellement ajoutées dans les cosmétiques, pour un effet gommage, un effet pailleté, un effet crémeux. Que dire de celles qui encapsulent les parfums des détergents? Que dire de celles qui enrobent les engrais pour contrôler la diffusion des principes actifs et qui chacune vont se retrouver à très court terme dans l'environnement? Qu'est-ce qu'on fait? On les recycle. Et les particules qui infiltrent les sols, notamment avec l'épandage de certains composts, qu'est-ce qu'on fait? On les recycle, on prend une pince à épiler. Les particules de pneus dont vous parliez tout à l'heure, qui effectivement s'envolent à chaque kilomètre. Vous prenez un pneu usé, un pneu neuf, il y a 2 kilos de différence. C'est des millions de tonnes chaque année dans le monde qui vont directement dans le sol ou dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On recycle. Pareil pour les microfibres synthétiques qui filent tout droit dans les tuyaux issus de nos lessives. C'est une énorme source de pollution plastique des océans. Et les microbilles des peintures industrielles, des voitures, des maisons, etc., c'est le même principe. Donc le recyclage ne répond pas à ces questions. Et que dire aussi de 7 milliards de tonnes de déchets qui sont déjà accumulés dans l'environnement depuis les années 50.
Et puis tout ce qui est à venir, tout ce qui va être produit, est-ce qu'on va être un jour capable, et ce sera une dernière rapide réponse, Joseph Taïfé, on va être capable de se débarrasser du plastique que nous continuons à produire?
La commissaire européenne à l'environnement, qui est actuelle Jessica Roswall, qui est actuellement à Genève, elle a dit dans une déclaration « Nous aimons le plastique, nous n'aimons pas la pollution plastique ». Et quand on regarde l'Union européenne et le travail qui a été fait, parce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui que le mandat de l'ensemble des pays de l'UE, c'est la commission qui négocie. Bah, les fameux microbilles, justement, dans les cosmétiques vont être interdits. Il y a effectivement des travaux qui sont faits pour, on va dire, rendre les produits plus durables. Mais le recyclage est quand même central dans la politique européenne, les années à venir. À partir de 2030, l'ensemble des emballages devront avoir du recyclé, devront être recyclables.
On peut imaginer donc un taux de recyclage supérieur à 10% dans les années à venir?
En Europe, la moyenne est de 40%. On nous sort toujours les chiffres de l'OCDE de 9%, mais au niveau européen, les emballages, par exemple, on est à 40%. La Slovaquie est à 50-60%.
Ça dépend, etc., des pays. Il y a des bons élèves.
Il faut aussi regarder ce qui marche aussi. Il faut regarder ce qui marche.
Et prendre peut-être
l'exemple
comme la Lituanie, qui est champion, je pense, dans la gestion des déchets.
Elle est meilleure que la France.
Exactement. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le sujet. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre. Capucine Dupuis, je rappelle votre essai « Plastique, on arrête tout et on réfléchit » à paraître aux éditions Rue de l'Échiquier le 22 août. Joseph Taïfé, votre livre « Plastique bashing, l'intox » aux éditions Le Cherche Midi. Merci aussi à vous, Henri Bourgeois-Costa, et bonne continuation, on l'espère, à Genève avec un traité international. Merci à toute l'équipe du débat de midi, Aurore Mancip, Louise Morfois à la programmation, nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi, nos documentalistes Patricia Miura et Corinne Chauvel, une programmation musicale de Djoubaka, une émission réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Raphaël Rousseau.